bon matin à vous tous, bon dimanche. Mais juste un petit rappel, c'est écrit dans l'écho, mais Adama m'a demandé de faire le rappel. Ce soir, chez Adama, il va y avoir une réunion spéciale de prière. Comme vous avez constaté, il y a plusieurs de nos frères et nos sœurs qui sont affligés, qui souffrent dans le corps. Et nous avons cru bon de prendre un temps d'intercession devant notre grand Dieu. Comme on dit souvent, les médecins soignent, mais c'est l'Éternel qui guérit. Et ce soir, à 7h, chez Adama, 19h, nous voulons justement être devant le trône de grâce, en train de demander la bonne main de notre Seigneur sur nos frères et nos sœurs qui souffrent. Alors, juste un petit rappel. Et en passant aussi, merci à David et toute son équipe pour ces beaux chants de louanges qui exaltent notre Dieu et qui nous fait tellement du bien dans notre cœur. Alors, ce matin, je vous demande de prendre vos Bibles et trouver le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 11. Et nous allons continuer notre étude systématique de ce livre, écrit il y a quelques 2500 ans. Mais encore, aujourd'hui, un livre qui est de l'actualité et aussi qui est tellement, tellement pratique. Et juste pour nous remettre un peu dans le contexte, parce que ça fait plusieurs semaines que nous n'avons pas vu ce texte, ce livre, jusqu'au présent, nous avons vu comment Dieu a suscité un homme, Néhémie, avec d'autres, bien sûr, on pense à Esdras, le scribe, il y a aussi des sacrificateurs. Bref, Dieu a suscité des hommes et qui sont impliqués dans une reconstruction de la vie de Jérusalem, tant matérielle que spirituelle. Et nous avons vu des choses excitantes. La muraille a été reconstruite en 52 jours. Nous avons eu aussi un réveil spirituel. Le peuple s'est rendu compte justement de leur situation devant Dieu. Ils se sont humiliés et ont publié un jeûne. Et a eu aussi la prière, la confession de leur péché. Et après ça, nous voyons un renouveau parmi le peuple où ils s'engagent solennellement devant l'Éternel de mettre la parole de Dieu en pratique. Et ce matin, nous allons voir comment l'œuvre de Dieu à Jérusalem continue à avancer grâce à la présence de vaillants hommes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai intitulé notre texte ce matin, « Dieu cherche encore des hommes forts ». J'ai utilisé le masculin, mais Dieu aussi cherche encore des femmes fortes. Et vous savez, ça a été toujours le plan de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Dans le temps de David, pas besoin d'y tourner, mais dans 1 Samuel chapitre 16, nous lisons à propos de David et ses vaillants hommes. Et à cause de ce groupe de personnes, l'œuvre de Dieu a avancé. Ici, dans Néhémie chapitre 11, nous avons aussi une question de vaillants hommes. Et on va voir comment est-ce que l'œuvre de Dieu aussi va progresser. Et ce matin, la question que je vous pose et je me pose aussi, qu'en est-il pour nous ce matin? Le plan de Dieu pour la société, le plan de Dieu pour nos foyers, pour les églises et surtout pour notre église ici au Cap-de-Madeleine, pour faire avancer son œuvre parmi nous, c'est qu'il y ait des hommes vaillants et des femmes vaillantes. Et comme le chant dit que j'ai cité, Dieu cherche encore des hommes forts, des femmes fortes. Mais il y a une strophe qui dit aussi, où sont-ils donc, ces cœurs de braves? Est-ce que vous êtes de ce nombre? Parce que vous êtes en train de rechercher à devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. Est-ce que vous êtes là où est-ce que Dieu veut que vous soyez en train de faire ce que vous devriez, Dieu veut que vous fassiez? Alors, notre texte pour ce matin nous démontre que l'œuvre de Dieu avance quand les croyants vaillants abandonnent le confort personnel pour bien remplir le rôle que Dieu leur a assigné. Et j'aimerais lire avec vous maintenant le texte qui se trouve dans Néhémie chapitre 11. On ne lira pas tout le texte, mais si vous comprenez les versets 1, 2 et 3, vous allez bien comprendre aussi le reste du chapitre. Alors lisons le texte, Néhémie chapitre 11, au verset 1er. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Les restes du peuple tira au sort pour que 1/10 vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. Verset 2, le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Et voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans la ville de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les lévites, les nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent les fils de Juda et les fils de Benjamin. Les fils de Juda, Ataja, fils de Ozias, fils de Zacharie, etc., etc. Verset 6. Total des fils de Peretz qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Verset 10. Des sacrificateurs. Jedéja, fils de Jojarib, Jakin, Seraja, fils de Ilkija, fils de Meshulam, etc., etc. Verset 14. Et le frère, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Guédolin, était leur chef. Verset 15. Des Lévites, Shemeja, fils de Hashub, etc., etc. Verset 18. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Verset 19, les portiers, Akoub, Talmon et le frère, gardien des portes, 172. Et le verset 20, le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Et finalement, les Nétiniens s'établirent sur la colline. Et un autre texte, pas besoin d'y tourner, mais vous le connaissez sans doute par cœur. Ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, sur le verset 33, où le Seigneur, dans le serment sur la montagne, va nous exhorter, il va exhorter justement ses disciples, et par ce fait même, il est en train de nous exhorter, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous trois conditions qui sont nécessaires. Si nous voudrions que l'œuvre de Dieu avance ici dans notre assemblée au Cap de la Madeleine, alors il est important de considérer et de mettre en pratique ces trois conditions. Alors dans un premier temps, l'œuvre de Dieu est avance quand il y a un leadership sacrificiel. Et si vous regardez votre texte encore que nous avons lu au verset 1er, les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Alors avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais mettre ce texte dans son contexte. Pas besoin d'y tourner. Mais dans Néhémie chapitre 7 au verset 4, nous avons une chose qui est très, une information qui est très importante à propos de la ville de Jérusalem. Le texte nous dit que la ville de Jérusalem était spacieuse, elle était grande, mais peu peuplée. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là. Et ça, c'était Jérusalem qui était devenue en quelque sorte une ville fantôme, une ville qui était déserte. Et entre vous et moi, une ville qui n'est pas très attrayante. Qui aimerait justement aller dans ce type de ville, une ville fantôme, pour s'établir, pour y élire un domicile? Et de plus, une ville aussi qui n'était pas très sécuritaire. C'est une chose d'avoir reconstruit la muraille en 52 jours, mais c'est toute autre chose d'avoir une population et assez de gens pour défendre justement cette ville et la muraille. Et vous savez, sans une population, sans des gens, mais cette ville était ouverte justement à une attaque facile de la part de l'ennemi. Et là, on serait encore aux cases de départ. Et deuxième chose, il y avait aussi reconstruit le temple. Et c'est bien, c'est beau d'avoir un beau temple, mais c'est toute autre chose aussi d'avoir des adorateurs pour bien remplir le temple et donner la gloire qui était due à Dieu. Et si vous remarquez aussi, comme nous avons lu ce matin à propos de Jérusalem, et une autre observation, on l'appelle dans le texte Jérusalem, la ville sainte. Et pourquoi? Parce que cette ville était la seule ville parmi toutes les villes dans ce monde que Dieu avait choisie, comme il dit dans Deutéronome, pour justement y faire résider son nom. Et en étant la ville mise à part pour Dieu, la ville choisie par Dieu, on l'appelle justement la ville sainte. Et Dieu avait donné des précisions, des commandements précis à propos de cette ville et comment aussi l'attitude que les enfants d'Israël devraient avoir à propos de Jérusalem. Il leur a dit, et le texte est leur, c'est là à Jérusalem que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, etc. Et c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles. Et garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Jérusalem était une ville spéciale. Elle portait le nom de Dieu. Et Dieu voulait que cette ville-là soit l'endroit précis où son peuple allait se rassembler pour lui donner gloire. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que la Jérusalem terrestre était un type du Jérusalem céleste. Cette ville, comme lisons dans Apocalypse, qui va descendre du ciel d'auprès de Dieu et qui va aussi avoir la gloire de Dieu. Et le but pour la Jérusalem céleste, c'est qu'elle soit justement une ville qui est remplie d'adorateurs. Et nous avons des beaux textes dans Apocalypse, chapitre 21 et 22. Pas besoin d'y tourner. Mais le texte nous dit que les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et Apocalypse 22, 3 nous dit ceci, le trône de Dieu et le trône de l'agneau sont dans la ville et ses serviteurs le servirent et le serviront et aussi verront sa face. Ah, que c'est extraordinaire. Alors, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi Jérusalem terrestre avait un rôle tout à fait spécial à jouer. Elle était un type, justement, de Jérusalem céleste. Et voilà Jérusalem à l'époque de Néhémie, ville fantôme. Une ville déserte, loin d'être ce que Dieu voulait qu'elle soit. Alors un cri s'élève. Qui maintenant va aller faire avancer l'œuvre de Dieu? Qui va justement investir dans cette ville pour rétablir la gloire de Dieu? Et les chefs, les leaders répondent, nous voici. Présents! Vivre à Jérusalem, c'est notre place. Et pourquoi est-ce que les chefs vont s'établir? Une réponse qui est très simple. Vous ne pouvez pas être leader ou vous désirez d'être leader et de rester dans l'arrière-plan. Votre place est sur la ligne de front. Et je vais vous donner maintenant trois raisons pourquoi, pas exhaustives, qui découlent de ce texte. Pourquoi est-ce qu'on va trouver justement les bons leaders qui vont prendre leur place et qui vont se trouver, comme dans ce texte, sur la ligne de front. Ces autres qui sont en avant. Quand il y a ce besoin de repeupler Jérusalem,
de redonner à cette ville la gloire qu'elle avait. Les chefs sont là. Mais il y a des raisons pour cela. Dans un premier temps, les chefs et un bon leader savent exactement le rôle qu'ils devraient jouer. Et nous avons un exemple que j'ai trouvé intéressant. Dans un contexte, et j'ai pris une femme parce que c'est vrai que dans l'économie de Dieu, ce sont les hommes qui sont supposés de prendre justement le leadership. Mais il y a aussi des femmes qui doivent jouer le rôle. Et dans le contexte ici, Esther est reine de Perse. Ça, c'est dans le livre d'Esther. Les Juifs sont en esclavage, sont en exil. Et elle est auprès du roi. Et il y a une menace qui plane sur son peuple, l'extermination. Et elle sait exactement le rôle qu'elle doit jouer. Parce que Mardochée, son oncle, va se présenter devant elle et qui va l'expliquer justement comment Haman va mettre en exécution un plan pour exterminer les Juifs. Il va lui dire ceci, qui sait? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait? Et vous savez comment est-ce qu'elle a répondu? Elle savait le rôle qu'elle devrait jouer. Je jeûnerai avec mes servantes, puis je j'entrerai chez le roi malgré la loi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Parce que si tu entrais dans la présence du roi sans avoir été convoqué, tu t'exposais à la mort. Mais cette femme savait le rôle que Dieu avait choisi pour elle qu'elle devrait jouer. Elle dit, je vais y aller malgré la loi. Et bien sûr, nous avons le bon exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, juste devant la croix, quand son âme est troublée. Il va prier comme si, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette âme. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette âme. Il savait le rôle qu'il devrait jouer. Et quand il est dans le jardin de Gethsémané, et les hommes s'avancent pour se saisir de lui, et il pose la question, « Qui cherchez-vous? » Il dit, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança. Il n'est pas reculé, parce qu'il savait le rôle qu'il devrait jouer. Alors, ces personnes sont convaincues de leur appel, et les leaders, ici dans le contexte, ils sont convaincus de leur appel, ils vont justement se porter volontaires pour s'établir à Jérusalem. Deuxième chose aussi, des bons leaders savent qu'il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à payer. Qu'est-ce que ça coûtait alors, si on revient à Néhémie 11, qu'est-ce que ça coûtait justement de demeurer et s'établir à Jérusalem? Mais dans un premier temps, sans doute, il fallait abandonner des choses matérielles. Les Juifs, quand ils étaient revenus de l'exil, ils se sont allés s'installer dans les villes avoisinantes. Et plusieurs, entre eux, il y avait leur terre, il y avait leur terrain, il y avait leur vigne. Et maintenant, il fallait tout quitter cela pour aller s'établir dans une ville. Alors, il fallait payer le prix. Quitter aussi, sans doute, parenté, amis. Échanger la vie rurale pour la vie urbaine, avec tout cela cela comporte, et aussi faire face aux attaques possibles. Parce que, comme j'ai dit, la ville de Jérusalem avait plus d'importance aux yeux de l'ennemi que les villes avoisinantes. Alors, ils savaient aussi qu'en faisant cela, ils seraient exposés à une attaque possible. Et malgré cela, ils sont prêts à payer le prix. Et si je reviens aux exemples que j'ai pris avant, Esther qui a dit, j'irai voir le roi, on voit aussi qu'elle était prête à payer le prix. Elle a dit, si je dois périr, mais je périrai. Ça, c'est le prix qu'elle était prête à payer. On part aussi d'Abraham, un homme qui était bien établi dans son pays, en Ur, et Dieu lui donne un ordre, va-t'en de ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et le texte nous dit qu'Abraham obéit et est parti. Moïse aussi est un autre homme qui était prêt à payer le prix. Un homme qui était puissant, un homme qui avait une fortune, Il était dans la cour de le Pharaon et le texte nous dit que devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'Égypte et il a laissé tous les trésors en arrière. Il était prêt à payer le prix. Et si on revient aussi de nos jours, il y a un homme, City Stud, un homme qui était un bon joueur de cricket, pas du croquet, mais cricket, c'est un jeu des Britanniques, un gentleman's game, comme on dit, et qui avait une carrière promettante, justement, pour devenir célèbre. Et il a tout laissé ça, il avait aussi un héritage, son père il était extrêmement riche, et Dieu l'a appelé pour aller en Chine et ensuite en Afrique. Et Stud est parti et il a dit ceci: si Jésus est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice ne peut être trop grand pour que je ne le fasse pas pour lui. Et bien sûr, l'exemple suprême de sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté la gloire du ciel, l'adoration continuelle des anges, pour venir ici-bas sur la terre, vivre dans la pauvreté, sans renom, fils de charpentier, comme on l'appelait, parmi les pécheurs, et qui a payé le prix ultime, le sacrifice de la croix. Je fais une application ici, avant d'aller à notre prochain point. Ces chefs qui se sont établis à Jérusalem, ces personnages que j'ai mentionnés, Abraham, Moïse, Esther, le Seigneur Jésus-Christ, savaient quel rôle qu'ils devaient jouer, sont prêts à payer le prix, le sacrifice, parce qu'ils sont conscients de l'enjeu. Et si on parle des chefs qui se sont établis à Jérusalem, ont pris un sacrifice parce qu'ils savaient que Jérusalem, rebâtie, repeuplée, restaurée, était une chose qui était chère au cœur de Dieu. Parce que c'était pour la gloire de Dieu et ils étaient prêts à y investir. Parce qu'ils savaient que ça avait une portée éternelle. Alors, ils étaient conscients de l'enjeu, exactement. Oui, un sacrifice, afin, mais aussi, ils étaient conscients de qu'est-ce qui était derrière cela. Et si je reviens aux exemples aussi que j'ai cités tantôt, nous avons Abraham qui a quitté, le texte nous dit dans Hébreux chapitre 11, il est parti et vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sur des temps. Pourquoi? Parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham regardait plus loin que le sacrifice. Si je pense aussi à Moïse qui a quitté l'Égypte, le texte nous dit ici, il avait ses yeux fixés sur la rémunération. Et il regardait plus loin, justement, que les trésors d'Égypte. Et si je regarde aussi l'exemple suprême que j'ai mentionné, notre Seigneur Jésus-Christ, pour rétablir la gloire de Dieu et l'honneur de Dieu, terni par le péché, pour se faire un peuple. Ce sont les enjeux, de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres, pour vaincre Satan et son royaume des ténèbres, et en échange de la joie qui lui était réservée. Tout cela, Jésus était conscient de cela. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enduré la croix. Il a méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite de Dieu. Cela nous montre justement que quand nous sommes conscients de qu'est-ce qui est dans la balance, jusqu'à quel point nous pouvons aller. Et Jésus nous démontre par son exemple suprême que ça a valu la peine justement pour justement ce qu'il allait accomplir. Je ne veux pas dire que ce matin, maintenant que je suis en train de vous exhorter là, à tout vendre, tout quitter, faire un sacrifice ultime, s'en va s'installer aux îles Moutmout, si vous voulez, puis commence à prêcher l'évangile. C'est pas cela. Mais j'aimerais vous sensibiliser que si Dieu vous a appelé à une position de leadership, que ce soit dans la société, dans le foyer, dans l'église, il y a toujours un sacrifice attaché à cet appel. Et vous devrez en être conscient. Et je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais peut-être Dieu est en train de vous appeler à quitter votre zone de confort pour faire avancer son œuvre en vous, là où vous êtes, et aussi à travers vous. Mais soyons aussi équilibrés. J'aimerais justement lancer un appel à ceux qui sont les pères de famille et qui ont des jeunes enfants et qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur. Parce que j'ai fait une erreur grave dans ma jeunesse. J'ai failli scraper mon couple et aussi ma famille. Parce que moi, j'avais l'impression que l'œuvre de Dieu passait en premier lieu et ma famille en dernier. Mais si vous avez des jeunes enfants, votre place, là où est-ce que Dieu veut que vous soyez, premièrement, c'est auprès de votre épouse et vos enfants. Et vous allez vous impliquer dans l'œuvre du Seigneur dans la mesure que vous avez justement la disponibilité. Mais ne faites pas l'inverse. Et aussi, évitez l'autre extrême. Vous êtes maintenant en quelque sorte plus libre. Les enfants ont grandi, le nid est vide et vous avez beaucoup de temps. Mais là, il y a deux extrêmes à éviter. Soit de tomber dans la paresse et de négliger justement l'œuvre de Dieu, vous êtes capable de vous impliquer plus. Ou bien vous êtes si impliqué que votre entourage en souffre. Alors encore là, il faut être équilibré ce matin, que Dieu nous donne tous la sagesse d'être des hommes et des femmes vaillantes, comme j'ai dit, là où est-ce que Dieu veut que vous soyez, en train de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, et là vous allez devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. Alors les leaders s'installent à Jérusalem, premier point, et ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, si vous regardez votre texte encore, le reste du peuple maintenant va tirer au sort pour que 1/10 vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. Et cela nous montre maintenant que si l'œuvre de Dieu va progresser, il faut faire confiance dans la souveraineté de Dieu. Et ce peuple ici nous démontre justement la souveraineté. Ils font confiance. On va tirer au sort, mais on est tellement confiant que Dieu est en contrôle que le résultat, on va lui faire confiance pour le résultat. Hey, faut le faire. Imaginez. Alors, Proverbe 16 nous dit ceci, 33, on jette le sang dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et ça, c'était pas nouveau, parce que déterminer la volonté de Dieu dans le temps de l'Ancien Testament, on tirait souvent au sort. Et on a des exemples dans Nombre chapitre 26. On va partager le pays de Canaan maintenant parmi les 12 tribus, et là, ils vont tirer au sort pour savoir qui va aller où. Dans 1 Chronique, chapitre 24, vous avez les classements des sacrificateurs, et alors on va tirer au sort. Il y a 24 classes et on tire au sort. Et même avant que l'Église arrive et est née du jour de la Pentecôte, et là il y a Judas qui est allé à son lieu, comme le texte nous dit, et on va chercher un remplaçant, mais qu'est-ce qu'on fait? On tire au sort. Et le sort tombe sur Matthias, qui a été associé avec les 12. Mais aujourd'hui, maintenant, comment est-ce que Dieu nous conduit? Vous savez, on ne va pas jouer au pile ou face, ou lancer des dés, ou jouer au hasard. Dieu nous conduit, comme le texte nous dit, ceci par son esprit. Et, qu'on peut remercier le Seigneur. Que vous et moi, nous avons le Saint-Esprit, le texte appelle le Consolateur, l'Esprit de vérité, et le texte nous dit qu'il va vous conduire dans la moitié de la vérité, non, dans toute la vérité. Que Dieu soit loué. Que nous avons un guide sûr et certain qui va nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Et vous savez aussi, l'Esprit de Dieu nous conduit toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de conflit. Vous voulez savoir comment est-ce que vous devrez agir, qu'est-ce que vous devrez faire, qu'est-ce que Dieu veut de vous, mais allez chercher dans la parole. Psaume 119, 105 nous dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une quoi? Une lumière sur mon sentier. » Qu'est-ce qu'une lumière fait? Mais ça nous éclaire, ça nous montre le chemin que nous devrions prendre. Et aussi, Dieu peut nous conduire par les circonstances et des conseils. Ce n'est pas exhaustif ce que je vous ai donné. Dieu n'est pas limité. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Dieu, c'est le Dieu de l'infini. Mais ça, c'est des manières normales par lesquelles Dieu, justement, dirige son peuple. Soyons pas comme cet homme. Je raconte une petite anecdote. Qui voulait, justement, connaître la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa Bible au hasard. Il lisait. Puis là, il obéissait. Alors, un jour, il ouvre sa Bible. Il a lu ceci. Et Abraham prit une femme. Alors, il est allé se marier. À nos jours, il a ouvert sa Bible. Il a lu que Moïse quitta l'Égypte. Alors, il est déménagé. Et tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour, il a lu Judas se retira et il alla se pendre. Bien aimé, le Seigneur nous donne justement la sagesse pour bien remettre en application sa parole. Juste une application de ce texte. Ce peuple-là, ces leaders, nous démontrent qu'ils font confiance à la souveraineté de Dieu. Ils tirent au sang. Ça, c'était dans l'époque de l'Ancien Testament. Et ils sont prêts, justement, à accepter le résultat. Ils font confiance dans la souveraineté de Dieu, que Dieu est en contrôle et que Dieu dirigerait, justement, le résultat. Et il y a une implication pratique de cette vérité. Si vous dites ce matin, dans votre vie et dans cette église, que Dieu est en contrôle, il est souverain, mais ça implique, justement, une soumission et l'obéissance à sa souveraineté. Qui veut dire simplement qu'on obéit et on est soumis à la parole de Dieu. Ça, c'est comment est-ce qu'on va démontrer que Dieu est souverain. Quand je suis obéissant et soumis à la parole de Dieu. Et ça touche toutes les relations. Nos relations avec les autorités. Nous sommes soumis aux autorités dans la mesure qu'ils ne nous demandent pas d'aller à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a mis ça dans sa parole. Ça touche aussi des relations avec le couple. Où est-ce que Dieu aussi a mis, justement, comment ça devrait fonctionner dans le couple. Si Dieu est souverain, nous allons chercher à mettre cela en application. Ça touche aussi les relations avec des parents-enfants. Si Dieu est souverain, on va mettre ça en application. Ça touche aussi les relations dans l'Église. Si vous croyez que Dieu est souverain, mais vous allez aussi mettre en application ce que la Bible enseigne à propos de nos relations les uns envers les autres dans l'Église. Et même, ce matin, j'aimerais vous encourager, que même quand cela fait défaut, et le péché entre, et nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, et nous subissons les conséquences, faire confiance dans la souveraineté de Dieu est une source d'espoir. Pourquoi? Parce que la souveraineté de Dieu nous dit que même quand les hommes et les femmes ne mettent pas en application sa parole, Dieu est capable de sortir un bien du mal. Et vous avez un exemple frappant dans la vie de Joseph. Il y a une brique justement. Dieu avait établi les relations qui devraient exister entre frères. Devrait s'aimer. Et voilà, Joseph est haï par ses frères, il est vendu en Égypte comme esclave. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait confiance à la souveraineté de Dieu tout au long de sa vie. Et quand il arrive devant ses frères, il leur a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il est capable de sortir du bien du mal. Et vous savez tous, ce n'est pas un secret, nous avons vécu ces dernières années, des choses difficiles. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés. Et nous sommes dans une phase de reconstruction. J'aimerais vous encourager ce matin pour vous dire que Dieu est capable de sortir du bien de ce que nous avons vécu. Et comme les Juifs, dans le temps d'Agé, ont dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Avec ça, je m'encourage, j'aimerais vous encourager. Dieu est en train de rétablir le témoignage de l'Assemblée de Cap-la-Madeleine et dans sa souveraineté, il va sortir du bien de ce que nous avons vécu. Alors, encourageons-nous avec cela. Et finalement, je termine avec ceci. Troisièmement, ici, l'œuvre de Dieu avance quand il y a un leadership sacrificiel, quand il y a confiance et soumission dans la souveraineté de Dieu. Mais troisièmement, quand le peuple soutient ceux qui sont sur la ligne de front. Et le texte nous dit que le peuple bénit ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Et c'est beau de voir cela. C'est beau de voir les chefs qui sont prêts à se sacrifier. Et c'est beau de voir aussi le reste du peuple qui sont imprégnés de cette même vision. Et ceux qui vont s'en aller et qui vont se sacrifier, qui vont se mettre sur la ligne de front, ils ont la main d'association de leurs frères innocents. Il y a une bénédiction. Que c'est beau de voir cela. Le peuple bénissant, le peuple appuyant, le peuple soutenant l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Et on voit l'unité ici qui est dans ce texte. Juste une manière d'expliquer brièvement, le texte dit, le peuple bénit ceux qui consentirent volontairement. Pourquoi volontairement? Mais il y a deux façons de comprendre ce texte ici. Il y a des commentateurs qui pensent que quand on tirait au sort, un homme pouvait refuser ou accepter, mais en maugréant, en bougonnant, en boudant. Il n'était pas content que le sort est tombé sur lui. Ou bien, on peut le comprendre comme on va prendre 1/10, ils le font. Ça, c'est selon la loi. Ils prennent la dîme, justement, du peuple, parce que les Juifs étaient, justement, toute leur économie était basée sur la loi. Alors, ils vont prendre une dîme, le dîme du peuple pour rester à Jérusalem. Mais il peut y avoir aussi des gens, même quand le quota est rempli, il y a des gens qui sont tellement, qui brûlent tellement pour l'œuvre de Dieu et la gloire de Dieu, qu'ils vont dire, je n'ai pas été choisi, mais j'y vais pareil. Parce que je me sens appelé, j'ai la conviction, c'est ma place, je veux aussi être, faire partie du nombre. Alors, lequel prendre? Mais écoute, soit un ou l'autre, ou les deux. Mais une chose aussi, si on regarde ce texte ici, il y a des choses qui découlent. Dans un premier temps, Dieu ne veut pas que nous fassions sa volonté en reculant. Il veut que nous fassions sa volonté de bon cœur. Volontairement veut dire que tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu de bon cœur. Et c'est ce que Paul il va nous donner l'exemple. Ceux qui sont des leaders, il parle ici aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, pas par contrainte, comme nous avons été mentionnés aussi à la table du Seigneur, nos offrandes même, pas par contrainte, mais volontairement, selon le Seigneur. Et aussi dans Colossiens, il nous dit ceci à toute l'Église, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, volontairement, pour le Seigneur et non pour les hommes. Et la deuxième chose aussi qui découle de ce texte, que Dieu s'attend à ce que son peuple l'imite en bénissant ceux qui sont sur la ligne de front. Et le peuple béni, il peut y avoir plusieurs façons, sans doute par les paroles. Remettons-nous dans le contexte. Il y a des gens qui vont quitter justement leur ville pour aller s'installer à Jérusalem. Et sans doute, il y a des paroles d'encouragement. On va prier pour des promesses de prière. Ça peut être aussi des gestes concrets. Ces gens qui étaient des fermiers, qui avaient des vignes, qui avaient ainsi de suite, maintenant ils vont s'installer. Alors, il peut y avoir des gens qui vont dire, mais écoute, on va vous encourager, on va vous soutenir, on va rester dans la ville, on va cultiver nos champs, mais on va vous donner aussi une partie de notre récolte. Et aussi, il peut y avoir d'autres choses. En tout cas, qu'importe la manière dont il y a cette bénédiction, un encouragement pour justement l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Et ça a dû faire chaud au cœur des personnes qui ont reçu justement ces bénédictions, parce qu'ils savaient qu'ensemble, on faisait avancer l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Et je vous laisse avec ceci. Avant d'aller à la conclusion, juste une chose aussi. Vous savez que ce matin, vous avez un ministère à accomplir, un ministère de bénédiction, un ministère d'encouragement. Et combien c'est beau, c'est bon, c'est encourageant, c'est édifiant, ça nous rassemble. quand nous sommes des frères et des sœurs qui savent comment encourager et bénir et appuyer. Et c'est ce que Paul va dire justement à l'Église en parlant justement des leaders, ceux qui sont sur la ligne de front. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent et vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et j'ajouterai aussi, ayant beaucoup d'affection les uns pour les autres et encourageons-nous mutuellement pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer au Captain Madden. En terminant, comment Dieu vous décrira-t-il au jour du jugement? Parce que, comme je vous ai dit, dans ce texte ici, je n'ai pas regardé le reste du texte, mais si vous prenez le temps de lire le texte jusqu'au verset, chapitre 12, verset 6, vous avez un paquet de noms, qu'on peut à peine prononcer, qui pour nous ne disent absolument rien, mais une chose est certaine, ces personnes qui se sont impliquées à Jérusalem pour faire avancer l'œuvre sont importantes pour Dieu. Et Dieu a pris la peine que le nom soit gravé et resté pour l'éternité dans son livre. Parce que, justement, il s'est impliqué dans son œuvre. Et il a aussi pris la peine de les classifier comme des hommes vaillants. Et au jour du jugement, devant le tribunal de Christ, ces hommes et ces femmes vont se présenter. Et là, on va voir justement les récompenses qu'ils vont recevoir. Mais qu'en est-il pour nous ce matin? J'aimerais que vous preniez le temps justement d'y réfléchir. Est-ce que Dieu pouvait vous décrire, me décrire comme un homme vaillant, une femme vaillante? Parce que je suis en train de devenir tout ce que Dieu veut que je sois. Je suis là où est-ce que Dieu veut que je sois. Et je suis en train de faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Ça, c'est la caractéristique d'un homme et d'une femme qui est vaillante. Et vous savez, qu'est-ce qui va nous motiver à justement rechercher cela? Je reviens à ce que je vous ai montré au début, la Jérusalem céleste. Si vous avez vos yeux fixés sur le jour du jugement, devant le tribunal de Christ, et votre place dans la cité éternelle, ça va vous donner toute la motivation nécessaire pour chercher la volonté de Dieu, premièrement le royaume et la justice de Dieu, et devenir l'homme et la femme de Dieu que Dieu veut que vous soyez. L'enjeu est là. Et ça, c'est la vision que ces hommes avaient. Jérusalem rétablie, restaurée, repeuplée pour la gloire de Dieu. Et ma prière, c'est que l'église de Captain Madeleine restauré, rebâti, repeuplé pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient devant le tribunal de Christ. Et ce matin, si vous n'êtes pas un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous savez, il faut commencer en devenant un enfant de Dieu. On commence là. Et comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu? Mais le texte nous dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on reçoit Jésus, mais on rejette le péché? Les deux sont incompatibles. Alors, pour devenir enfant de Dieu, pour recevoir le Christ, il faut rejeter le péché. Et par une simple prière, où est-ce que vous confessez devant Dieu votre péché? Oh Dieu, j'ai péché contre toi. Et vous reconnaissez que Dieu est offensé et que le salaire du péché, c'est la mort, et vous méritez la mort et l'enfer. Mais aussi, vous tournez vos regards vers la croix et vous constatez et vous croyez et vous saisissez que Jésus-Christ est mort à votre place. Il a subi le jugement de Dieu. Il a pris vos péchés. Et là, vous le recevez comme votre sauveur et votre Seigneur. La Bible dit que vous deviendrez en ce moment un enfant. Et une fois un enfant, vous pouvez alors commencer cette belle aventure de devenir un homme vaillant et une femme vaillante pour la gloire de Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Te demandons maintenant de prendre ta parole et l'appliquer à nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit. Du fruit, Seigneur, qui va te glorifier parce que tu en es digne. Et merci encore une fois de nous habiter, de nous entourer, de nous donner ta parole, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous avons ton esprit, Seigneur. Nous te prions que tu nous donnes alors le désir, le vouloir et le faire de garder nos yeux fixés sur les choses d'en haut et de progresser dans la sanctification. Nous demandons alors de nous bénir ensemble et pitié de ceux qui peut-être sont ici qui ne te connaissent pas. Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde, ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent prendre et accepter ton offre de salut et qu'ils puissent quitter ce lieu ce matin joyeux, sachant que les péchés ont été pardonnés et qu'ils sont en route pour le ciel. Sépare-nous avec ta bénédiction, nous demandons au nom de Jésus. Amen. David disait qu'il y avait un chant à la fin. Oui? OK. On y va. Excusez. Il connaît ce chant.